Bonsoir à tous. C'est encore une joie d'être parmi vous ce soir et puis de voir des nouveaux visages aussi. Je disais à Norbert, je perds complètement mes repères. En plus, les gens changent de place, c'est terrible. Je ne sais plus où je suis. Voilà, donc je m'appelle Nicolas Farelli. Je suis le pasteur de l'église baptiste de Compiègne. Une église sœur de la vôtre au sein de la Fédération des églises évangéliques baptistes de France. Et voilà, j'étais très heureux de recevoir cette invitation de la part de Norbert et de pouvoir être avec vous ce soir et partager l'Écriture et son enseignement avec vous. Alors effectivement, le premier soir, c'était jeudi, on a parlé de la communauté comme d'une famille, essayé de réfléchir aux implications de cela. Qu'est-ce qu'une famille au juste? Il y a la famille occidentale et puis il y avait la famille au temps de Jésus. Et quand Jésus dit et enseigne que sa famille, la famille de la foi, la famille qu'il constitue autour de lui, est effectivement une famille, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a vu que c'était quelque chose de quand même très exigeant dont il parlait. Et du coup, qu'il y avait des applications pour nous aussi, un petit peu radicales, quelque part, qui devaient nous faire réfléchir. Et puis hier, on a parlé l'importance de placer Christ au cœur de nos vies communautaires, de ne jamais dévier de cela, de ne jamais le remplacer, de toujours considérer qu'il était le centre, le cœur, notre raison d'être, le début, la fin, notre tout. Et ce soir, donc, nous allons parler de la communauté, toujours, mais de choses qui peuvent faire débat au sein de la communauté, qui ne sont pas toujours faciles à vivre. On continue donc notre réflexion. Et j'aimerais évoquer ce soir un des grands défis qui traverse toutes les communautés chrétiennes depuis toujours. Comment garder l'unité dans notre diversité ? Notamment dans notre diversité d'opinions, évidemment. Donc je ne vais pas parler de notre diversité sociale, culturelle, d'origine, etc., même si elle existe et elle est belle, cette diversité, on le sait, et elle peut poser parfois problème. En tout cas, il peut y avoir des tensions à cause de cela dans les églises, malheureusement. Mais aujourd'hui, on va parler surtout des diversités d'opinions. Et j'imagine que dans votre communauté, ici, de fait, il y a des diversités d'opinions sur différents sujets et que ce n'est pas toujours facile à vivre. Vous avez peut-être des exemples? Dites-moi tout. Récent, plus ancien, comme vous voulez. La vaccination, ben voilà. Très étonnant. Ouais, la vaccination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont sujet de débat, justement? L'heure du culte. Bon, ça, c'est pas secondaire, là, c'est tertiaire. Mais effectivement, hein, la couleur du carrelage, peut-être ça a fait débat à l'époque. Voilà. L'estrade. D'autres choses en termes d'opinion, de... Oui. La politique, et oui, parfois des sujets sociétaux, et oui, il y a des grands débats qui peuvent s'inscrire dans l'Église et venir chambouler un petit peu les relations. Ça ne fait pas toujours du bien. Et oui, généralement dans les Églises, certains vont avoir des opinions différentes sur des sujets comme ceux que vous venez d'évoquer. On pourrait en rajouter beaucoup d'autres, hein, sur là, voilà. Le retour de Jésus, c'est quand, comment, etc. Ouais. Après, avant, pendant le millénium, qu'est-ce qu'on en fait? Les dons charismatiques, les dons spirituels, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, est-ce qu'elles sont déjà accomplies, pas encore ou pas toutes? Et oui, la fin des temps. Et puis aussi les relations avec d'autres confessions de foi chrétienne, d'autres... d'autres comme les catholiques ou les réformés, etc. On sait qu'ils confessent leur foi en Jésus, mais quel type de relation devons-nous avoir avec eux? Le ministère exercé par les femmes. Et ouais. Alors, comment faire pour que cette diversité d'opinions n'entrave pas, ne vienne pas blesser et plus que cela, ne vienne pas entraver, bloquer l'unité, ne déchire pas la communauté? Comment accepter au sein d'une même communauté la légitimité d'opinions différentes sur des questions sur lesquelles l'écriture peut dire des choses et dit des choses bien souvent, mais est effectivement interprétée différemment selon qui l'interprète. Eh bien, dans le passage que je vais lire avec vous maintenant, la communauté chrétienne, elle est confrontée à Rome à des différences d'opinion ou de comportement assez fortes en son sein. Et ce que Paul va rappeler, c'est que si l'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qui touche au salut, si l'accord sur l'essentiel est là, alors il y a vraiment de la place, oui, pour la tolérance et la diversité au sein de la communion fraternelle. Si l'accord sur l'essentiel est là, diversité d'opinion, tolérance, tout cela est possible et même plutôt bon à vivre au sein de la communion fraternelle. Alors lisons ce passage, il est un petit peu long. C'est au chapitre 14 et 15 de l'épître de Paul aux Romains. C'est un peu long, mais ça vaut le coup de le lire en entier, parce que Paul prend le temps. C'est dire que le sujet est important. Il prend quand même deux chapitres au sein de son épître aux Romains, la plus grande épître de Paul, la plus longue et la plus importante historiquement aussi. Il prend deux chapitres pour parler de ces notions-là. Paul dit: accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discrimination d'opinion. Tel a la foi pour manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le domestique d'autrui? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Tel juge, en effet, un jour supérieur à un autre. Tel autre les juge tous égaux. Que chacun, dans sa propre intelligence, soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Car si le Christ est mort et a repris la vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. Dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit: par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue reconnaîtra Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Je le sais bien, j'en suis persuadé, dans le Seigneur Jésus, rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est souillée, alors elle est souillée pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne va pas, par ton aliment, causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Que personne donc ne puisse calomnier ce qui pour vous est bon. En effet, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Car celui qui, en tout cela, sert le Christ comme un esclave est agréé de Dieu et apprécié des humains. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Certes, tout est pur, mais il est mauvais de faire de sa nourriture une pierre d'achoppement. Il est beau de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui est pour ton frère une cause d'achoppement. La foi que tu as, toi, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se juge pas lui-même en exerçant son discernement. Mais celui qui hésite est condamné s'il mange, parce que ce qu'il fait ne relève pas de la foi. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, au lieu de faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue de ce qui est bon et constructif. Le Christ, en effet, n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais, ainsi qu'il est écrit, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici notre lecture. Alors c'est un peu long, effectivement. Paul prend le temps, il explique les choses. Et je pense que là, déjà, vous avez entendu des choses importantes, ne serait-ce qu'à travers cette première lecture. Mais quelle était donc la nature du problème auquel devaient faire face Paul et cette communauté de Rome, de chrétiens de Rome? De quoi Paul parle-t-il et quel était le sujet là qu'il essayait d'adresser? Quel était le problème? La nourriture, oui. Il y a la viande, oui, c'est ça, hein, bien sûr. En 1 Corinthiens, il le dit très clairement, c'est la viande sacrifiée aux idoles. Peut-être que là, c'est de la viande qui n'était pas autorisée par la loi juive. Hein. Il n'est pas explicite sur le sujet. Puis il y a un autre sujet aussi. Voilà, les différents jours. Ouais, tout à fait. En tout cas, il y avait de la dissension dans l'Église sur ce sujet-là. Certains, probablement d'origine juive, avaient des scrupules relatifs à un régime alimentaire particulier et à l'importance de certains jours. Donc, ils ne mangeaient pas de viande et ils pensaient que certains jours étaient plus importants que d'autres. En face, certains chrétiens mangeaient, eux, de tout, même de ce qui est interdit par la loi juive, peut-être même de ce qui était sacrifié aux idoles, dans les temples de l'époque, et ils ne faisaient pas de différence entre les jours de la semaine. Probablement qu'ils ne pratiquaient pas le sabbat, hein, du vendredi soir au samedi soir. Ce sont donc ces questions qui minaient véritablement les relations au sein de cette communauté romaine. Les relations entre ceux que Paul appelle les faibles, d'une part, et ceux qu'il appelle les forts, d'autre part. Chacun dans leur coin, sûr d'eux-mêmes, probablement, ils s'autorisaient à se juger, à se mépriser même les uns les autres. Ce sont des termes, des verbes que Paul emploie. Ils s'autorisaient à cela. Tu penses, tu agis mal, tu devrais penser comme moi. Et l'autre en face dit, non, c'est toi. Tu penses et tu agis mal. Et donc on se méprise les uns les autres comme cela. Et puis de toute façon, on fait ce qu'on veut, diraient certains, et d'autres diront, bah non, tu fais pas ce que tu veux, mais si, je fais ce que je veux, et puis t'es qui pour me dire que j'ai pas le droit de penser comme ça, ou j'ai pas le droit d'agir comme ça, etc., etc. On connaît ça. Alors, avant de s'intéresser aux diverses exhortations que Paul leur adresse, et l'explication, et l'enseignement qu'il veut leur apporter, je voudrais quand même essayer d'expliquer ce que Paul entend par le faible et le fort dans la foi. Quelle est la différence entre les deux, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il y a des faibles et pourquoi est-ce qu'il y a des forts? La maturité, ouais, qui se montre comment, du coup, qui se révèle comment? Oui, pour certains, le manque de conviction, Paul en parle, hein, est un problème. Ils sont un petit peu mous du genou, un peu tiédasses. Alors, c'est quoi être faible? Il y a la question de la maturité chrétienne, certainement. De connaissance, oui. Oui. Peut-être. Oh, c'est en partie ça, je pense. Oui, effectivement. Oui, pour certains, hein, les légalistes sont probablement les faibles là dans l'histoire. Hein? Clairement même. Eh oui. Les faibles dans la foi, certains vont dire, et je crois à tort, qu'il s'agit de personnes qui manquent de foi. Mais je ne crois pas que ça soit ça. Ce ne sont pas des personnes qui ont une foi qui est faible et qui ont besoin de s'appuyer sur les béquilles des coutumes ou de traditions, certains que l'on qualifierait avec un petit peu de mépris, hein, les chrétiens charnels. Non, en fait, il faut relever qu'à aucun moment Paul ne considère que ces faibles dans la foi n'ont pas la foi ou manquent de foi. Ce n'est pas la question, me semble-t-il. Par contre, Paul montre qu'ils ont tort, les faibles dans la foi. Parce que pour Paul, et il le dit clairement, tout aliment est bon. Il n'y a pas de pur et d'impur. Hein, Paul le dit très clairement. Il le dit aussi dans sa première épître aux Corinthiens. Donc, les faibles ont tort dans leur rapport et leur conviction sur les nourritures, sur les viandes qu'ils s'abstiennent de manger, ou sur les jours particuliers qu'ils continuent d'observer. Pour Paul, ils ont tort, parce que tout aliment est bon, et parce que les chrétiens peuvent jouir de tout. Mais il ne parle pas de la qualité de leur foi, ici, de la foi qui sauve. Les faibles, ils l'ont, cette foi. Hein, c'est un acquis. Ils suivent Dieu, ils aiment Dieu, ils sont à son service. Donc l'expression faible dans la foi vise, je pense, des chrétiens sincères qui ont la foi qui mène au salut, mais qui, selon Paul, sont timides, timides lorsqu'il s'agit de jouir pleinement de tout ce qui est permis en Christ. Et cette conviction, malheureusement, les poussait, ces faibles-là, cette conviction les poussait à juger ceux qui ne s'autorisaient ceux qui, pardon, s'autorisaient à manger de tout. Ce que eux ne s'autorisaient pas à faire, eh bien, ils jugeaient ceux qui s'autorisaient de le faire. OK? Et de même, les forts dans la foi, ce ne sont pas les champions de la foi. Hein? C'est pas ça. Ils ne sont pas plus forts dans ce sens-là. La réalité de leur attachement à Dieu n'est pas surestimée, hein, par Paul. C'est simplement ici qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'en Christ, il n'y avait plus d'impur et plus de pur, plus de sacré et plus de profane. En Christ, tout est bon. Et ils étaient donc prêts à jouir de tout, sans scrupule. Ils avaient peut-être raison là-dessus, et clairement, ils avaient raison selon Paul. Ils étaient forts en ce sens-là. Leur opinion était la bonne. Mais le problème, c'est quoi? Exactement. On peut avoir raison, mais si on méprise les autres, il y a toujours un problème. Donc, vous voyez, à Rome, comme à Nîmes, probablement, comme à Compiègne, très certainement, les communautés chrétiennes sont composées de personnes qui peuvent avoir des opinions divergentes, assez radicalement opposées, sur des sujets qui n'ont pas trait au salut, sur l'essentiel du contenu de la foi. Et sur ces sujets, eh bien, certains ont raison, ces sujets secondaires, certains ont raison, d'autres ont tort. Tout le monde ne peut pas avoir raison en même temps. Hein. Tout le monde peut avoir tort en même temps, par contre, ça c'est possible. Des personnes peuvent avoir raison en même temps. Enfin, on ne peut pas tous avoir raison en même temps. Et le risque, c'est de tomber dans le jugement ou le mépris de l'autre pour son opinion. Alors que faire? Que faire quand ça arrive? Quand il y a des différences d'opinion comme ça sur des sujets secondaires dans l'Église, qu'est-ce que dit Paul? Qu'est-ce qui est ressorti de la lecture? Sur quoi est-ce que Paul met l'accent, justement? Vous avez relevé des choses? S'accueillir, ouais, se respecter. Tolérance, ouais. Ne pas être une occasion de chute. Ouais, très bien, ça c'est fort, il le dit très clairement, hein. Des fois, dans notre manière de nous traiter les uns les autres, c'est comme si on mettait une pierre là devant l'autre pour qu'il puisse tomber devant moi. Le Seigneur est le patron, c'est lui le maître, nous nous sommes à son service. Donc laissons le Seigneur s'occuper de ses serviteurs. La loi de l'amour, très bien. Oui. Est-ce qu'on est motivé par l'amour ou pas? D'autres choses? Alors, et oui, pour Paul, si manger de la viande va faire chuter ton frère, abstiens-toi. Abstiens-toi. Quel amour tu as pour lui sinon. Oui. Ouais. Alors on va y revenir. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même, hein, ce que Paul demande ici. Parce que tu as parfois un petit peu l'impression que le faible, celui qui a tort, peut être un petit peu tyrannique. Et puis on est bien obligé de se mettre à son rythme-là. Mais bon, la tyrannie du faible, c'est pas non plus excellent. Mais on va y revenir, on va en parler ensemble, justement. Ce qui est clair, c'est que Paul, il n'est pas contre le débat. Hein. D'ailleurs, lui-même, il donne son opinion. Hein. C'est clair et net. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense des faibles et ce qu'il pense des forts sur le sujet dont il est question. Donc il n'est pas contre le débat, il n'est pas contre l'échange. Et on peut essayer, dans l'Église, dans la communauté, on peut tenter de se convaincre, on peut discuter, recevoir des enseignements, discerner ce que dit la Bible ensemble. Hein, c'est autorisé. Qui dit sujet qui fait débat ne dit pas sujet tabou. Hein, on a le droit de parler, il faut même en parler. Mais il faut bien en parler. Ce qui l'intéresse en tout cas Paul davantage, c'est la qualité, non pas du débat, mais la qualité de la relation. C'est que la communion fraternelle au sein de la communauté chrétienne demeure au milieu de différences parfois très fortes. Ça, c'est pour Paul ce qui est le plus important, c'est qu'on continue de se considérer comme des frères et sœurs, qu'on continue de s'aimer en Christ, etc. La relation, la qualité de la relation. Au sein même des divergences. Ça doit demeurer et ça doit être l'accent premier que nous mettons en avant quand il y a des divergences. Bien. Mais comment faire? Comment faire? Quels sont les sentiments qui doivent nous animer, nous aussi, pour que nous ne tombions pas dans le mépris, pour que nous ne tombions pas dans le jugement de celui avec qui nous ne sommes pas d'accord, ou de celui qui agit différemment de nous. Qu'est-ce que dit Paul? Qu'est-ce que vous avez relevé? Quel sentiment doit-on avoir? Quelle motivation? Qu'est-ce que l'on recherche? On a mentionné des choses, hein, l'amour déjà, la paix, l'unité, et oui. Partie d'une même famille, on est des serviteurs du même Seigneur, donc on est unis. De fait, on est unis. Il faut le reconnaître, par contre. Et oui. En fait, je vois quatre choses importantes dans ce passage qui me semblent importantes de relever. Quatre sentiments, quatre manières de penser, quatre angles, quatre directions à mener. La première chose, c'est des versets 6 à 12. Là, Paul rappelle que l'autre qui n'est pas d'accord avec moi est avant tout un frère ou une sœur. Et ça, c'est voilà, c'est énorme. Hein, on ne peut pas faire fi de cette idée-là, alors qu'on pourrait être très tenté. Hein. Lui, c'est un anti-vax. Je préférais qu'il ne soit pas mon frère. Et inversement. Mais non, non, non. Avant tout, celui qui est en désaccord avec moi est un frère ou une sœur. Et nous appartenons donc à la même famille. La famille de Dieu. Paul replace donc chacun dans le bon cadre. Quand il y a divergence, faisons l'effort de se replacer mutuellement dans le bon cadre, le cadre de la famille. Nous sommes frères et sœurs, nous appartenons à Dieu, nous sommes tous à son service. Et pourtant, que se passe-t-il quand on se met à juger ou à se mépriser les uns les autres? Eh bien, on se prend en fait pour qui on n'est pas. Ce n'est pas tant qu'on pense l'autre différent ou ne pas être ce qu'il devrait être, c'est que nous-mêmes, on se prend pour qui nous ne sommes pas. On se prend pour Dieu. Et ça, c'est le problème que met Paul en avant. On se met à la place de Dieu qui seul est juge. Juger, c'est considérer que le frère est à notre service, là, dans le passage. Qu'il faudrait qu'il fasse ce que je lui dis, moi, de faire. Ou qu'il pense ce que moi je lui dis de faire, de penser. Mais l'autre, mon frère, ma sœur, qui n'est pas d'accord avec moi, il est au service du même maître que moi, il est au service de Dieu, et c'est lui le juge, c'est lui qui dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi. Et chacun, nous rendrons des comptes à Dieu, pas les uns aux autres. À Dieu. Première chose donc. Remplacer dans le bon cadre. Nous sommes frères et sœurs, nous appartenons à Dieu, nous sommes à son service, et c'est lui le juge. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui dit, c'est lui que nous écoutons. Du coup, avant d'avoir une bonne relation horizontale les uns avec les autres, concentrons-nous un peu sur notre relation à Dieu, et considérons que c'est bien lui que nous voulons écouter, lui que nous respectons, lui que nous recherchons. L'autre chose que Paul met en avant, c'est que plutôt que de nous concentrer sur nos différences pour nous juger mutuellement, et des différences peuvent être très importantes, hein, bien sûr, bien pour Paul, plutôt que de faire cela, nous ferions mieux de nous juger personnellement. Vous avez vu ça, ce passage-là, hein, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Arrêtez de juger votre frère ou votre sœur, mais usez de votre discernement pour vous-même, pour agir correctement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, se juger personnellement? Qu'est-ce qu'on fait quand on se juge personnellement? À votre avis? Oui, on se pose des bonnes questions. On déshumanise, c'est-à-dire? Ah oui, quand on juge l'autre, oui, ça devient une chose, c'est un objet. Oui, oui. Oui. Et là, Paul est en train de dire, mais arrête de le juger, de le mépriser. Juge-toi toi-même. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que dit Paul. Hein, c'est exactement ça. Paul dit, jugez plutôt votre propre comportement pour savoir s'il est motivé par l'amour. Hein ? On peut avoir les meilleurs arguments du monde, la meilleure théologie du monde, et ne pas être motivé par l'amour, on le sait. Hein. Jacques le dit dans son épître. Les démons, ils ont une meilleure théologie que nous. Hein. Clairement, ils ont tout compris, eux. Mais ils n'aiment pas. Leurs motivations sont terriblement mauvaises. Donc, plutôt que de se juger mutuellement, nous ferions mieux de nous juger personnellement et se poser la question, est-ce que je suis motivé par l'amour? Si, pour un aliment, verset 15, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Paul s'adresse aux forts ici. Et il leur dit qu'ils ont peut-être raison sur ce point de doctrine, mais que s'ils deviennent pour leur frère une occasion de chute en mangeant de la viande, en mangeant de quelque chose qui choque l'autre, et qui lui fait du mal en cela, eh bien c'est qu'ils ne marchent pas selon l'amour. Ce sont des égoïstes. Ils aiment la viande, bah, très bien, ils ont le droit. Mais ça fait mal à l'autre. Alors tu veux te faire plaisir à toi ou tu veux faire du bien à l'autre? n'y a que toi qui comptes? Ou est-ce que tu prends en compte l'autre dans tes actes? Est-ce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes? L'amour de mon prochain, voilà ce qui doit être ma motivation, ce qui motive mon comportement. Pas seulement le fait que j'ai raison, donc. Souvent, quand on a raison, on pense qu'on a le droit d'agir d'une certaine manière. Mais non, pas forcément. C'est l'amour qui doit motiver nos choix, et nos comportements, et nos actes, et nos paroles. Même si on a raison. Donc là, quand même, Paul met le doigt sur quelque chose de vachement important pour nous. Qu'est-ce qu'il est tentant d'écraser l'autre quand on a raison? Sur plein de sujets, je peux venir avec des arguments. Qu'est-ce que ça va lui faire? Est-ce que ça va lui faire du bien ou pas? Et on pourrait donner plein de sujets, plein d'exemples de cela. Aujourd'hui encore. Il y a des actes qui ne me semblent pas forcément mauvais en soi. Évidemment, je sais pas, boire de l'alcool, par exemple. Mais est-ce que ça va tenter mon frère, que je sais faible sur ce sujet-là? Est-ce que ça va lui faire du mal? Est-ce que je risque de le mettre à mal? Alors je m'abstiens. Je peux tout à fait m'abstenir sans aucun souci. Il faudrait, en tout cas, même si j'ai raison de penser qu'il n'y a pas de mal à boire de l'alcool en soi. Et d'ailleurs, troisième point, si j'aime mon frère et ma sœur qui pourtant ne pensent pas comme moi, je vais avoir envie de l'élever, non? De l'aider, de le faire croître, plutôt que de l'abaisser. Qui dit amour de mon prochain dit désir de le valoriser, de lui faire du bien. On n'essaie pas de faire du mal à ceux qu'on aime quand même. Ça n'a pas de sens. On le fait parfois, mais ce n'est pas notre souhait. Ça nous arrive à tous de blesser les gens qu'on aime. Mais on sait bien qu'il y a là un problème quand on le fait. Et c'est ce que Paul demande au verset 19. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Le but, selon Paul, c'est que l'autre croisse dans sa foi, dans sa vie chrétienne, qu'il puisse être édifié plutôt que d'être heurté par mes actions. Et donc l'idée, c'est vraiment de ne pas créer d'obstacles inutiles à la croissance de mon frère ou de ma sœur. L'idée, c'est de l'aider à avancer, à se rapprocher de Christ, à grandir. Le rôle et le but de toute la communauté chrétienne dans cela, c'est ça. Progresser ensemble dans la foi, dans la ressemblance au Christ. C'est notre but, c'est le but de la vie chrétienne. Croître dans notre ressemblance au Christ et nous encourager mutuellement à le faire. Ne pas se mettre des obstacles, ne pas se mettre des barrières qui vont faire que l'autre chute pendant que moi j'avance. Quel type d'avancement est-ce que c'est si nous faisons cela? Donc c'est vers ça que nous devons tendre dans nos relations fraternelles, dans nos communautés. C'est vers cela que nous devons tendre quand nous sommes confrontés aussi à nos différences. Réfléchir en ces termes-là. Qu'est-ce que je peux faire pour élever mon frère, là, pour l'aider à croître, alors qu'il a tort, alors que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, non. Alors que je pense qu'il a tort. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à croître dans la foi et pour être constructif? Qu'est-ce que je peux faire, en tout cas, pour surtout ne pas entraver sa croissance? Ça, c'est des grandes questions, c'est une bonne question quand même à se poser. Malheureusement, on n'y pense pas quand on est dans le conflit, quand on est dans le débat. On pense à soi, on pense à nos arguments, etc. Mais là, Paul est en train de nous dire, prenez un pas de recul, réfléchissez à vos motivations, réfléchissez à ce qui peut être utile et constructif dans cette situation-là. Là, il y a un déclic qu'il nous faut apprendre à avoir. Et ça, par contre, c'est la maturité chrétienne. Quand on arrive à faire ce pas de côté, quand tout en nous a envie de dire « Mais non, t'as tort et t'es nul !» Faire ce pas de côté et dire « Attends, comment est-ce qu'on va avancer ensemble? Comment est-ce qu'on va se rapprocher de Christ ensemble dans cette situation-là » Pas simple, mais c'est possible. Et quand on y arrive, alors on progresse vraiment. Il y a de très belles choses qui se passent. Et puis enfin, quatrième point, Paul veut que nous apprenions la vraie liberté. La vraie liberté. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle de liberté? Ça veut dire quoi, la liberté? Faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça, la vraie liberté, bien sûr. Sinon, Paul se contredirait. La vraie liberté, ce n'est pas de dire bah, « j'ai envie de mettre une pierre d'achoppement devant mon frère, donc je le fais ». Ça, ce n'est pas être libre hein, que de faire ça. Au contraire, c'est être esclave. Oui, dans notre monde, la liberté, c'est une revendication au droit de faire ce que nous voulons. C'est l'absence de contraintes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la liberté chrétienne dont parlent toutes les Écritures, et Paul en particulier. La liberté chrétienne, ce n'est pas une revendication de nos droits, mais plutôt un appel à la responsabilité. La responsabilité. Et renoncer à un droit, comme celui de manger de la viande, si ça choque mon frère, renoncer à ce droit-là, c'est précisément être libre, selon Paul. C'est précisément user de sa liberté. Je ne suis pas esclave de mon droit à manger de la viande. Ou alors, il y a un problème. Si je suis esclave de ça, je suis esclave, c'est pas top. Mais si je suis libre, je peux ne pas en manger. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas esclave de ce droit-là. Je suis libre. Libre parce que je fais preuve de responsabilité. Je fais preuve d'amour de mon prochain, pour mon prochain. Quand je m'abstiens, je ne restreins pas ma liberté, donc je ne crois pas du tout. Au contraire, j'en use. Et là, il y a encore un changement de perspective qu'il nous faut avoir. Aimer mon prochain et faire en sorte qu'il ne soit pas choqué par mon comportement, ce n'est pas me restreindre. C'est user de ma liberté pour lui, pour l'aimer. Parce que je suis libre, je peux l'aimer. Je suis libre de l'aimer complètement, parfaitement. Rien ne me restreint, justement. Je ne suis pas esclave. Vous voyez la différence? C'est cette liberté d'aimer mon prochain que me donne Christ. Je ne vis plus pour moi-même, égoïstement. Je ne suis plus au centre de mon monde, au centre de la communauté. Mes droits ne sont pas au cœur de ma vie. Je vis pour Christ. Et c'est lui qui me rend libre d'agir à sa suite. Alors voilà, si nous sommes appelés à nous accueillir avec nos spécificités, et avec nos différences, cela ne signifie pas, Paul nous l'a rappelé ce soir, cela ne signifie pas, surtout pas, abandonner nos fondamentaux, bien sûr, hein, qu'ils soient théologiques, qu'ils soient éthiques, non, non. Cela ne signifie pas, surtout pas, appeler vrai ce qui est faux. Ce n'est pas ça, être tolérant. Pas du tout. Ce n'est pas appeler bien ce qui est mauvais. Non. Non, mais en introduction, je le disais, et je vais redire cette phrase-là. Si l'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui touche au salut, est là, dans la communauté chrétienne, alors il y a de la place pour la tolérance et la diversité au sein de la communion fraternelle. Il y a de la place pour ça. On peut ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échanger, discuter, débattre, mais on peut continuer de vivre en communauté avec des désaccords. Et on peut continuer de s'aimer avec ces désaccords. On peut continuer de se servir les uns les autres. On peut continuer d'avancer ensemble vers la ressemblance au Christ. Pas simple, évidemment, mais Paul nous a donné quelques éléments de réflexion pour y arriver. Si nous faisons communauté, c'est parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et c'est cette foi en Christ qui fait de nous des frères et des sœurs, qui nous unit, qui fait de nous une famille qui est centrée sur le Christ, qui vit de Christ, une famille qui désire vivre pour lui, donc à sa suite, à son service. Et c'est bien là l'essentiel. Vous savez aussi, je le mentionne là rapidement, que dans votre Église, vous avez une confession de foi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais moi j'ai la même que la vôtre. Au sein de la Fédération Baptiste, on a une confession de foi, et on a dit qu'on était d'accord avec cette confession de foi-là, et voilà ce que nous croyons. Les églises qui sont rattachées à la FEB, qui ont décidé de faire partie de cette fédération d'églises, d'être unies les unes aux autres, de faire partie de cette même grande famille de la Fédération Baptiste, eh bien, ont une même confession de foi, ils ont un accord là-dessus. On croit que cette confession de foi reflète l'enseignement biblique. Et si vous ne connaissez pas cette confession de foi, n'hésitez pas à aller la trouver sur le site de la Fédération Baptiste, sur votre site internet peut-être aussi, j'imagine. En tout cas, ici, à l'église baptiste de Nîmes, c'est ce que vous croyez, cette confession. C'est ce que vous croyez. Et vous êtes invité à être vigilant sur cela. Vous devez être vigilant sur cette doctrine, ne pas dévier, mais garder, promouvoir ce que Paul appelle bon. Enfin, le bon, ce que Paul appelle le bon dépôt, pardon. Le bon dépôt de la foi. On croit que dans notre confession de foi, on reflète le bon dépôt de la foi. Mais voilà, cette confession de foi ne dit pas tout. Elle dit beaucoup de choses quand même. Elle est plutôt bien foutue, si vous me permettez l'expression. Elle est bien faite, oui, mais elle ne dit pas tout. Elle n'a pas une opinion sur tous les sujets, et de ce fait, elle donne de la place pour des opinions différentes sur ce dont elle ne traite pas, ce dont elle ne parle pas, sur les aspects qu'elle considère donc comme secondaires. Elle vous met d'accord sur l'essentiel. On décide de dire, voilà, ça correspond à ce que je crois. Je choisis de respecter cette confession de foi là, mais cette confession, elle nous permet de penser différemment sur d'autres sujets secondaire. Et si vous voulez être vigilant pour garder le bon dépôt de la foi, vous voulez aussi être vigilant pour que ces sujets secondaires ne deviennent pas des sujets premiers sur lesquels vous allez vous diviser. Que ces sujets ne deviennent pas des pierres d'achoppement, donc, pour les uns et les autres dans la communauté. Alors Paul nous a encouragés ce soir. Il nous a expliqué, quelque part, comment faire, comment nous considérer les uns les autres, prendre soin les uns des autres pour ne pas se faire chuter, pour ne pas se faire de mal devant nos opinions, en se souvenant que l'on forme une même famille, en se souvenant que nous devons nous juger personnellement plutôt que de juger l'autre, plutôt que de se juger mutuellement, juger nos motivations. Est-ce que c'est l'amour de l'autre qui est notre moteur ? Paul nous a aussi demandé de nous souvenir que la croissance de l'autre, c'est notre but. La croissance de la communauté, du même fait, c'est notre but. Et que la liberté, la vraie liberté, c'est celle qui s'exerce dans l'amour. Sinon, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'égoïsme, c'est de l'esclavage. Amen. Tout un programme. On va en discuter, si vous voulez. Je ne sais pas combien de temps on a, je ne sais pas où on en est dans l'heure. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez des remarques et des questions les uns les autres sur tout ça ? Oui ? Vous avez un exemple, peut-être ? Quelqu'un peut se dire, mais moi, ça fait des années que je pense ça, et enfin, j'ai découvert une vérité, j'ai changé, j'ai grandi. Et puis là, mon frère n'est pas d'accord avec moi, et je suis obligé de faire attention à lui. Mais ça, je peux le considérer effectivement comme une sorte de rétrogradation. C'est vrai, il faut que je me mette à son niveau. Alors que moi, enfin, je suis libéré. Libéré de mon obligation, je sais pas, de ne pas manger de porc, par exemple. Et là, je suis obligé de choisir l'amour de mon prochain, du coup, de ne pas manger de porc. Et on peut penser justement que oui, ce n'est pas une vraie liberté, mais c'est se restreindre à nouveau, et je rétrograde alors que j'avais trouvé la liberté, je me remets esclave. Mais j'espère que, quand on comprend bien Paul, on réalise que la vraie liberté, justement, c'est d'aimer son prochain. Et la vraie liberté, c'est le contraire de l'esclavage. C'est pas se restreindre. Mais c'est vrai. Ouais. Et ça nous fait grandir en fait. Aimer notre prochain nous fait grandir aussi. On veut l'élever lui, mais ce faisant, on grandit dans notre patience, dans notre joie en Christ, dans notre service, etc. Ça nous fait grandir. Ouais. Et jusque dans l'Église, en fait, on vit ces tensions-là. Je parle des gens qui disent, bon, il faut que je prenne soin de moi. Bah oui, c'est vrai. Mais si tu prends soin de toi parce que tu es fatigué, fait que d'autres doivent faire le boulot à ta place et vont se tuer à la tâche, c'est pas forcément non plus aidant. Donc voilà, il n'y a pas que toi, il y a d'autres. Alors comment on réfléchit ensemble? Comment est-ce qu'on s'aide mutuellement pour que la chose soit faite, mais ensemble ou en tout cas en réfléchissant et en faisant bien les choses. Et ça, pastoralement, je le vois beaucoup en église, enfin beaucoup. Ça arrive, quoi. Des gens disent, bon, j'arrête, je suis fatigué, ou j'arrête, j'en peux plus. Ok, non, tu as le droit d'arrêter, et personne ne va te forcer de le faire, mais est-ce que tu as quand même réfléchi? Est-ce que tu as posé la question à d'autres? Est-ce que tu t'assures que la chose va être faite, etc. C'est ça aussi, aimer l'autre et ne pas vivre pour soi. On fait partie d'un organisme vivant et qui a besoin de nous et on a besoin de lui. Et voilà, il y a de l'échange à avoir, il y a de la conversation, il y a de la prière, il y a du discernement. On ne vit pas pour nous-mêmes. Ouais. Oui. Oui, je ne suis pas rentré trop dans ce détail sur qu'est-ce qui est secondaire et qu'est-ce qui est premier. Pour le dire facilement, voilà, j'ai parlé de ce qui a trait au salut. J'ai un petit peu élargi avec notre confession de foi, parce que elle traite aussi du fonctionnement d'une église, des ministères, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on décide de rentrer dans une église, on dit bon, d'être membre de cette église, on décide aussi de respecter cette confession de foi. Donc là, ça ne va pas être sujet de débat. Ou de division, mais voilà, ça ne traite pas de tout. Donc, ouais, moi, j'aurais tendance à dire ce qui est premier, c'est vraiment ce qui a trait au salut. Là-dessus, voilà, on est frères et sœurs à partir de là. Et puis, dans une communauté locale, quand même, on va prendre la confession de foi et la respecter et pas en faire une pierre d'achoppement pour les uns et les autres. Quand on n'est pas d'accord, enfin, quelque part, il y a déjà un problème si, en tant que membre, on n'est pas d'accord ou on va exprimer ce désaccord vis-à-vis des autres. C'est qu'on n'a pas totalement compris le sens de la communauté. Quelqu'un d'autre? Oui, oui, Eric. Difficile, évidemment. Ok. À l'époque, c'était difficile, mais...
Aujourd'hui, ça me paraît simple. On n'est pas forcément confronté à ces questions-là. Oui.
Ça touche à des choses plus émotionnelles et difficiles.
Ça touche au fonctionnement même de la communauté, à la conception de la foi, du service, du sacerdoce universel, ou je ne sais pas
quoi. Oui. Alors, pour le. D'accord, vas-y. Je crois, je vais répondre à la première question, j'essaierai de me souvenir de la première ensuite. L'amour, ce n'est pas s'oublier, je ne crois pas. Hein. Comme l'humilité, ce n'est pas s'abaisser. Ce n'est pas tant le regard que l'on porte sur soi que le regard que l'on porte sur l'autre. Et justement, être humble, si par exemple je suis fort, être humble, ce n'est pas dire ben non, je suis faible. Ben non, tu es fort. Pas faible, tu vas pas mentir, tu vas pas te mentir à toi-même, tu es fort. Bon, tu es intelligent, t'es pas bête, tu es intelligent. Donc être humble, c'est pas mentir. Mais par contre, donc c'est pas un regard que l'on porte sur soi, c'est avoir une juste compréhension de soi-même. Mais quel regard on porte sur l'autre et qu'est-ce qui va faire que je vais l'élever. Donc c'est pas s'oublier dans le sens, pas j'oublie ce que je pense, j'en parle plus, je fais comme si j'avais tort et que tu avais raison. C'est pas ça hein, dont je parle. On garde nos convictions, on peut les avoir très fortement, mais qu'est-ce qui va aider l'autre? C'est avoir ce changement d'attitude qui fait que je vais oser parler de ce que je crois juste, etc. Je vais oser, pourquoi pas, débattre avec lui si les conditions sont réunies pour le faire. Mais je vais le faire avec cette conviction qu'ensemble, on peut avancer. Et que, ben voilà, je peux lui dire aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Et puis allons au cœur de cette différence qui est la nôtre et essayons de se tourner vers le Christ pour qu'il nous éclaire ensemble. Donc voilà, première chose, je pense que c'est vraiment pas c'est pas s'oublier, c'est pas se restreindre que d'aimer l'autre dans ce sens. Mais bon, et puis c'est aussi oser parler. Hein. Quand il y a des différences très fortes, ben là sur les vaccins, etc., dans beaucoup d'églises, on a tendance à pas oser en parler parce qu'on sait que ça peut faire du débat, ça peut faire du mal à la communauté. Puis c'est vraiment pas le moment de faire du mal à la communauté parce qu'on sort de confinement, etc. Mais voilà, parfois ne pas parler, c'est pas non plus très aidant. Alors on peut apporter des réponses, on peut dire des choses, on peut dire ce qu'on pense dans l'amour, essayer d'échanger, d'avoir un dialogue serein. On peut le viser. Et ça me fait penser du coup à ta première question. Je crois quand même que dans une communauté, je parlais de la confession de foi et on peut aussi parler de nos dirigeants, hein, des pasteurs, des membres du conseil, de l'équipe pastorale, ou selon la façon dont on est organisé, eux ont quand même un rôle de direction hein, pour nous dire bah, c'est ce fonctionnement-là qu'on a choisi ici dans la communauté. Donc, on peut discuter, etc., mais enfin, c'est ça qu'on a choisi. Et si un jour on remet la question sur la table, en assemblée générale ou autre, on le fera et on sera libre d'en parler, mais on ne va pas se bagarrer là-dessus. C'est le choix qu'on a fait. On a fait le choix d'avoir des relations œcuméniques. On a fait le choix de laisser prêcher des femmes. On a fait le choix d'autoriser le parler en langue et la prophétie dans le culte. C'est le choix que les responsables de l'Église ont fait, l'orientation d'Église qu'on a choisie. On ne va pas se bagarrer là-dessus. Même si ce n'est pas dans la confession de foi, etc. Il y a quand même un rôle des dirigeantes pour dire voilà, respectez ça. C'est le choix. Même si, ultimement, on sait que c'est secondaire, on sait qu'on peut en discuter, mais dans un contexte précis, et ça ne va pas devenir le serpent de mer dont on parle chaque dimanche, etc. Respecter l'autorité des dirigeants, ça me semble important. Respecter les orientations choisies par l'Église, c'est important. Ouais. Ça répond un peu à. C'est, elle est longue, hein, celle de la FEB, elle fait une dizaine de pages. Donc... Exactement.
Je pense qu'en termes de décision d'église, ce n'est pas seulement l'amour qui doit guider, sinon on va passer au rythme du dernier qui a d'arriver avec une conception de la vie et tout, qui n'est pas tout évangile.
Ouais.
Et du coup, on ne peut pas empêcher l'église d'entrer dans ce que Dieu lui demande, parce que ça peut être étonnant, choquant.
Ouais.
Moi, j'avais été favorablement impressionné, j'avais lu dans un des congrès d'église qu'à un moment dans la Fédération Baptiste, les gens s'étaient posés la question des dons. Il y avait dit, certains d'entre nous, je crois que c'est pour le temps révolu, nous décidons de marcher ensemble, mais pas au prix de dire, ben, les églises qui croient que les dons sont encore pour aujourd'hui doivent se taire.
Non.
Parce que là, ça n'irait plus.
Tout à fait.
Je pense que, au niveau de l'église locale, c'est la même question. C'est qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des choses, une forme de liberté, mais pas égoïste, mais une forme de liberté dans la pratique de l'évangile ou dans la vie d'église,
tout à fait. Bien sûr. Oui. Je donne un exemple. Dans notre église, il y a une dizaine d'années encore, l'œcuménisme était très important et très, voilà, très soutenu. Ça ne veut pas dire qu'il y avait beaucoup de monde qui venait aux rencontres œcuméniques, mais en tout cas, c'était important pour la communauté. C'était une fierté, etc. Et puis, l'Église a beaucoup changé ces dernières années, avec des gens pour qui l'œcuménisme, c'était le truc pas question, quoi. On va pas prier avec des catholiques, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, j'ai un cap. Je suis plutôt favorable à la relation avec d'autres confessions de foi, etc. Mais là, j'ai dû dire, et avec le conseil, on a réfléchi, on a dit, bon, on va faire une pause et on va réfléchir ensemble en communauté, on va discuter de ça, on va remettre les choses un petit peu à plat, encourager, etc. Se mettre à l'écoute, hein, du mouvement de l'Église, de son identité, des nouveautés, etc. Pour pas continuer de faire des choses qui vont faire du mal aux frères, du coup. Mais ce n'était pas se mettre à son niveau, dans le sens, c'était pas se restreindre non plus, c'était prendre la mesure de la réalité d'aujourd'hui et voir comment on allait pouvoir tirer vers le haut. Mais ce n'était pas pour retrouver l'œcuménisme, hein, ce n'était pas forcément ça. C'était on fait une pause, on réfléchit. On fait les choses avec la communauté là-dessus. Ça, parfois, il faut aussi savoir le faire. Hein, et... Ouais, alors la question s'est pas vraiment posée. Je crois que pour certains, c'était vraiment une pierre d'achoppement, un truc absolument impensable. Et ça, en Église, on n'était pas non plus prêt à aller jusque-là. Hein. On voulait dire, on fait une pause, on va réfléchir sereinement. Si vous avez une position tellement arrêtée que pour vous, de toute façon, c'est le diable, on va pas y arriver. Hein. Faut aussi qu'il y ait des efforts, quoi, de la part des uns et des autres pour dire, on se remet en question, on réfléchit ensemble. Ça. Et voilà, la tyrannie du faible, mais, ou de la minorité, c'est un problème, ça peut l'être. Bien sûr. C'est comme quand il y a des églises qui, par exemple, qui vont réfléchir, est-ce qu'on autorise une femme à prêcher? On réfléchit, on se pose vraiment la question, etc. Puis à la fin, bah, on ne sait pas trop. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Il y a une valeur aux deux arguments. On n'arrive pas à avoir de conviction. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, la plupart des églises vont dire, bah, on ne laisse pas prêcher la femme, puisqu'on n'est pas sûr. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi la logique là du coup? Si le Seigneur veut que les femmes prêchent, c'est pas être en sécurité que de ne pas les laisser prêcher, c'est aller contre le Seigneur. C'est pas l'approche de dire, bon, bah, du coup, on ne fait pas prêcher les femmes. C'est pas être dans la sagesse. Hein. Pas, enfin, de le faire avec cette motivation que c'est plus sécurisant. Comme si au moins, bon, voilà. Bah, ah non, si le Seigneur veut qu'elle prêche, vous avez tort. Donc il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut faire ça sur plein de sujets. On n'est pas sûr, donc on prend la position la plus sécurisante. Bah, non. Ça, je crois que c'est ce que Paul dit quand il dit ne pas avoir de conviction. Notre oui n'est pas vraiment oui, notre non n'est pas vraiment non. Mais... Donc, ouais. Pas simple. Oui. Non, probablement pas. Ouais. Il y a des sujets tabous qui sont pas faciles à aborder. Et... Mais déjà, oui. On n'ose pas les dire. Puis des fois, quand on ose, on réalise que ah, toi aussi, tu penses comme moi, en fait. Ah, bah, j'osais pas le dire. Mais oui, et je crois que là, il faut revenir à ce. Bah, je pense qu'il faut revenir à ce cadre qui est un cadre sécurisant, qui est celui de la famille chrétienne. Passer du temps ensemble, apprendre à se connaître. Hein, en cela, comme dans une famille. Hein. Je prenais l'exemple dans une famille. Moi, ma famille, je peux essayer de cacher ce que je pense ou cacher certaines habitudes ou je ne sais quoi d'autre. Ils le savent, ils le voient. Hein. Je ne peux pas être autre chose que moi-même sous mon toit. Hein. Je pourrais peut-être essayer de cacher certaines choses, mais au bout d'un moment, ça se voit, ça va se savoir. Ben, dans l'Église, c'est un peu pareil. On passe du temps ensemble. On apprend à prendre du temps ensemble, à s'aimer les uns les autres. À se dévoiler aussi, à s'ouvrir à l'autre. Et je crois, voilà, plus on prend conscience de cette dimension fraternelle qui nous unit, et plus on la met en œuvre, ben plus on va pouvoir oser aussi aborder des sujets qui peuvent être des fragilités que nous avons, ou des opinions minoritaires qu'on n'osait pas trop dire, ou on n'osait pas trop poser la question pour pas faire de vagues, etc. Plus on s'aime, plus on apprend à s'aimer, plus on apprend à se connaître, plus on passe du temps ensemble. Moins ça va devenir compliqué, et moins il y aura de tabous, et moins il y aura de difficultés comme ça que l'on se pose soi-même quelque part. Hein. Alors tout n'est pas bon à dire tout le temps, ça on est d'accord, hein. Mais dans le cadre de la communauté et dans certains cadres au sein de la communauté, il y a des temps où on peut, dans la confidentialité ou dans voilà, dans des groupes donnés, on peut aller loin, quoi, hein. On peut se dire les choses et se faire du bien en cela. Donc, ouais, prise de conscience de la communauté qui est une famille et mise en œuvre de cette réalité-là, ça ouvre quand même des portes pour oser. Avoir ce courage de dire. De dire ce que l'on croit et de dire aussi qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. C'est possible et c'est bon aussi. D'aimer l'autre suffisamment pour lui dire. par exemple. Non, mais c'est clair. Ouais. T'as quand même intérêt à t'habituer, quoi. Ouais, carrément, j'entends bien. Ouais. C'est là c'est aussi pas juste s'abstenir librement et d'en faire une fin en soi. C'est qu'est-ce que je vais faire pour l'aider à évoluer, à grandir, à changer son regard. C'est pas des fatalités, quoi, nos opinions. Une opinion fausse, c'est pas une fatalité. Eh oui, bien sûr. Alors, quelqu'un je crois que c'est juste, par contre, si on sait que dans la communauté, il y a quelqu'un qui est un alcoolique, par exemple, on fait un effort qui est continu, et puis voilà, c'est pas un effort parce qu'on est libre, en fait, c'est par amour qu'on le fait, et c'est pas un problème. C'est un peu différent de ce sujet-là, mais oui. Je pense que parfois, quand même, certains faibles, entre guillemets, ont aussi besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour passer à autre chose, quoi, hein, et pour grandir dans leur opinion, parce que s'ils sont vraiment bloqués dans quelque chose de faux, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est ça. Donc enseigner, passer du temps pour dire les choses, pour lire 1 Corinthiens 8, Romains 15, et grandir ensemble. Ouais. Ça, c'est du discernement pastoral, j'ai envie de dire. C'est vraiment le conseil, l'équipe pastorale qui se dit, là, il est temps de parler de la communauté, ou de parler d'eschatologie, de la fin des temps, parce que ça fait débat dans l'Église. Ouais. Ça, c'est un peu du nez. Mais parce que, justement, l'équipe dirigeante est au cœur des choses, elle entend dire, elle sait ce qui se passe. Elle se dit, bon, là, ça, c'est le moment maintenant d'en parler. Ou ça, c'est pas encore le moment d'en parler, parce que ça va. Si on en parle, on sait qu'il faut que ça évolue, mais si on essaie de faire évoluer la chose trop vite, ça va casser. Oui. C'est ça. Oui. Un comportement. Oui. Doser. Oui. Exactement. Et oui. Ça, il y a un apprentissage à avoir là-dessus. Hein. On est quand même très timide d'aller voir notre frère pour lui dire des choses. Pas forcément agréable à entendre, mais le dire avec humilité, avec désir d'avancer ensemble. Ouais. On a peur. Et c'est vrai que bien souvent, on va entendre, même un pasteur va se l'entendre dire, hein, mais tu prends pour qui? T'es qui pour me dire ça? C'est pas agréable. Hein, donc ça demande quand même un certain courage, mais c'est aimer que de le faire avec la bonne motivation, avec une justesse de propos et d'attitude. C'est bon, on a dépassé. Ça, c'est bien, ça discute. Je suis content. C'est que le sujet était à propos. Voilà. Bon, merci les amis pour votre écoute attentive et ces bons échanges.